Chapitre 20e. Cet hiver-là fut triste pour tout le monde. Un deuil de cour empêchait les bals. Restaient les concerts et les raouts, distractions essentiellement maussades quand on les prend à haute dose. Marthe se barricadait dans son orgueil. Sa santé déclinait visiblement. Michel tâchait d'oublier, et le prince devenait mélancolique. Son souci à lui était d'une espèce toute particulière. Un maquignon avec lequel il avait fait plus d'une affaire s'était soudainement trouvé en grand besoin d'argent. La vente d'un rat superbe était annoncée, et le dit maquignon, voulant faire une affaire d'or, s'était adressé au prince. « Prêtez-moi 10 000 roubles, votre Altesse, lui avait-il dit. » À ce mot, Ogueroff, qui donnait à tout venant, mais qui n'était pas plus prêteur que la fourmi, avait pris un visage si sévère que le maquignon s'était hâté d'ajouter « Voici le marché que je vous propose, votre Altesse. J'ai 6 chevaux de race qu'on m'a beaucoup demandé, mais dont je ne veux pas me défaire en faveur du premier venu. Prenez-les en garantie, ils valent 2 fois ce que je vous demande. Venez les voir plutôt. Gardez-les dans votre écurie. Servez-vous-en. Faites-en tout ce que vous voudrez jusqu'à ce que je revienne, et je vous rapporte votre argent au bout de 2 mois, avec un poulain de 2 ans pour les intérêts. » « J'ai des chevaux, qu'est-ce que tu veux que je fasse des tiens ?» repartit Ogueroff ébranlé. « Vendez les vôtres, je vous en fournirai bien d'aussi bons. Venez toujours voir mes 6 bêtes, et si vous les trouvez vilaines, mettez que je n'ai rien dit. Le comte Garoutine me les prendra à de meilleures conditions, mais j'aimerais mieux vous les donner, parce que vous êtes si bon connaisseur. » Le prince alla voir les animaux qui étaient vraiment superbes, marchanda un peu, et le soir même, 8 000 roubles quittaient son portefeuille en même temps que les 6 chevaux s'installaient dans ses écuries. Mais tout ne se trouva pas avantageux dans ce marché. Le plus vieux des 6 chevaux n'avait pas 4 ans. La première fois qu'on attela la paire de trotteurs, ils sortirent si brusquement de la porte cochère que le timon de la calèche entra dans une voiture qui passait paisiblement, roulant un vieux sénateur vers sa chaise curule. La voiture fut endommagée, le sénateur aussi, et Ogueroff, après avoir fait réparer la voiture à ses frais, fut encore obligé de faire 12 de visites au malade, qui ne le vit pas 1 fois sans lui reprocher la turbulence de son attelage. La seconde fois qu'on les fit sortir, ces aimables bêtes prirent le mort aux dents et allèrent briser un réverbère sur la place d'Isaac. La calèche, par contre-coup, fut réduite en miettes, si bien que le prince trouva plus économique d'en acheter une autre que de faire réparer celle-là. Les sorties suivantes furent agrémentées d'incidents si nombreux et si variés que Marthe déclara à son mari sa résolution d'aller à pied plutôt que de se servir de ces admirables animaux. Ogueroff fut réduit à acheter pour sa femme une paire de vieux chevaux de réforme. Les 4 autres chevaux n'eurent pas plus de chance. L'un d'eux, un cheval de selle, se mit à boiter sans cause appréciable. Le 4e ruait si fort que les cochers renoncèrent à le conduire. Les 2 derniers ne voulurent jamais se laisser atteler ensemble. « Et si tu savais comme ils mangent ?» disait Ogueroff à Michel, qu'il avait rencontré à la perspective. « Jamais je n'ai vu des chevaux manger comme ça. Ils deviennent féroces à ne rien faire. Et j'ai engagé 2 palefreniers de plus pour les promener à la main, sans quoi ils casseraient tout. » « Et ton maquignon ?»« Voilà 5 mois qu'il est parti. Et je n'ai pas de ses nouvelles. Je crains bien d'avoir fait un mauvais calcul. » ajouta le prince soucieux, car je n'ai pas le droit de les vendre. Et ils me coûtent gros comme eux d'entretien, mauvaise affaire. Elle ne me paraît pas bien bonne, en effet, dit Michel, qui ne put s'empêcher de sourire. Non, mais cela ne m'étonne pas, continua le prince. Je n'ai jamais de chance, moi. La veille, à l'heure ordinaire de sa visite, Ogueroff avait trouvé un diplomate inconnu dans le salon de la diva brune qui recevait pour lors ses hommages. Et le diplomate, au lieu de prendre congé, s'était trouvé retenu par la diva, tandis qu'Ogueroff avait dû lui céder la place. Là-dessus, querelle et rupture. Non, le prince n'avait véritablement pas de chance. « Viens dîner avec nous, » dit-il à Michel d'un air piteux, sans lui révéler toutefois sa principale mésaventure. Ce n'était pas à Michel qu'on pouvait raconter ces choses-là. Il n'y entendait rien, d'abord. « Non, merci, » répondit Averieff. je dîne chez ma tante. Mais tu le fais donc exprès de dîner chez ta tante toutes les fois que je t'invite ?
Non, je ne le fais pas exprès, dit Michel, riant malgré lui. Mais tu l'as dit, mon pauvre ami, tu n'as pas de chance.
Et vraiment, cette année-là, l'hiver ne fut pas gai pour Ogueroff. Le printemps vint pourtant, au bout de ce long hiver attristé. Marthe ne prit point son plaisir accoutumé à voir les feuilles se dérouler sur les branches noires. Elle ne se souciait plus guère de la nature. À la voir si blanche et si morose, quelques-uns l'avaient crue poitrinaire. De charitables conseils mirent la mort dans l'âme à M. Milaguin, qui consulta trois médecins, épuisa leur patience à tous les trois, et finit par déclarer à Marthe qu'il ne la quitterait plus avant son complet rétablissement. Un voyage à l'étranger fut conseillé, accepté, organisé en quelques jours. Ogueroff laissa partir sa femme avec une grandeur d'âme qui cachait complètement la douleur du sacrifice, et de fait, il n'avait pas besoin de la présence de Marthe pendant l'été, puisqu'il était au camp, occupé des manœuvres, et de la troupe russe engagée au théâtre de Krasnoïe-Selo. La seule personne qui fit quelque résistance fut Nastia. Ce voyage, dont elle avait parlé pendant toute son enfance, lui faisait maintenant l'effet d'un cauchemar. Sa bonne humeur avait disparu. Elle grognait à tout propos contre les malles, contre les robes, contre les chemins de fer et les hôtels, le tout en expectative, comme si elle eût connu par une expérience de 20 ans les mécomptes de la vie de voyage.
« On serait si bien aux îles, » disait-elle. « Waterskoe-Selo, » dit-elle un jour.
Pauline la regarda fixement et sourit d'un air fin. « Quelle drôle d'idée !» murmura Marthe, passive et indolente comme elle l'était depuis quelque temps.
« Enfin !» gronda M. Milaguin, sorti des bornes de sa patience moutonnière. « On dirait que tu n'aimes pas ta sœur, que tu lui regrettes ce voyage dont elle a besoin pour guérir. Qu'ont-ils donc de si attrayants les environs de Pétersbourg, que tu les préfères à la vie de Marthe ?»
Nastia se jeta dans les bras de la princesse en pleurant si fort qu'on eut toutes les peines du monde à l'apaiser. Avant de partir, elle eut l'art de se faire inviter à passer un dimanche à Tsarskoe-Selo, chez Madame Averieff, qui s'attachait de plus en plus à elle. Cette grande fillette de 15 ans l'amusait. Son babil et les taquineries qu'elle ne cessait d'échanger avec Serge Averieff rajeunissaient la grande maison sévère. En revenant, le soir, contre sa coutume, elle fut sérieuse et muette. Ses yeux brillaient comme des diamants pendant qu'elle attendait le train sur la plateforme. Monsieur Milaguin, qui était venu la chercher, causait avec Michel dans la demi-obscurité. Nastia passa son bras sous celui de Serge qui les avait accompagnés.
« 4 mois, murmura-t-elle, c'est long.
« Bah, reprit-il, les manœuvres, mon uniforme, les présentations et l'exercice, car je serai officier quand vous reviendrez, mademoiselle. » Elle le regarda en souriant, les yeux pétillants de joie et d'orgueil.
« Et pour vous, le Tyrol, les chamois, les broderies suisses et les petites montres ?»«
Fi, le méchant !» interrompit-elle en lui frappant le bras du manche de son ombrelle. Le train s'arrêta devant eux.
« Adieu, monsieur, » dit Serge à M. Milaguin. « Bon voyage. »«
Au revoir, Anastasie Pavlovna, » dit-il cérémonieusement à Nastia. Celle-ci lui répondit d'un signe de tête et ne dit plus rien jusqu'à Pétersbourg. Les 4 voyageurs, Polinopfer était du voyage, remplirent consciencieusement leurs devoirs pendant les 4 mois d'été. Marthe absorba d'incalculables quantités d'eau minérale, fit d'interminables promenades à pied, toujours indolente, toujours pâle, et ne retrouva un peu de vie qu'en Suisse. L'air des montagnes lui fouettait le sang. Elle resta 1 mois à Genève. Elle aussi, elle eut la tentation du Mont-Blanc. Elle passa aussi des heures à le regarder. Elle voulut aller à Chamonix. Ses désirs étaient des ordres. Quand elle y fut, et qu'elle vit le Mont-Blanc en face, elle eut peur. Peur de l'énorme masse blanche. Elle eut le vertige du gouffre et du glacier sans les avoir abordés, et elle retourna à Genève, où elle pouvait voir le géant de loin, sans cette frayeur matérielle de l'immense qui l'avait saisie à Chamonix. Elle se mit à le contempler, mystérieux et semé de paillettes au clair de lune,
bleu dans l'air du matin, jaune à midi, éblouissant sous les rayons qui perçaient les nuées d'orage, terne et sévère avant la tempête et rose le soir, comme à l'heure où Michel l'avait vue. Elle le regardait sans cesse, longuement, comme il l'avait fait, et un jour, en apprenant qu'une fois de plus, des pas humains avaient violé la neige des sommets, elle sentit ses yeux se mouiller de larmes, comme si on lui eût arraché une illusion dernière. Elle pleura. Avec le don des pleurs, la vie revint à son cœur desséché. De ce jour, ses larmes, longtemps taries, coulèrent faciles et abondantes, à mesure que le rose revenait à ses joues et la chaleur vitale à son corps. Marthe était sauvée. L'automne approchait, ils retournèrent à Pétersbourg.